Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Pas d'artisans du goût sans paysans, bien entendu. Alors on profite de notre venue au salon du Made in France en direct ce samedi matin pour réfléchir au lien qui unit les agriculteurs et les consommateurs. Nous avons invité Édouard Bergeon, vous le connaissez, c'est le réalisateur du film Au nom de la terre, cofondateur de Cultivons-nous TV, et puis les restaurateurs également, donc il sait de quoi il parle, il parcourt le monde paysan au quotidien. Il est avec nous ce matin. Bonjour Édouard Bergeon.
Bonjour Laurent.
Bienvenue.
Merci.
Alors, vous venez de sortir un livre, Cultivons-nous. Un livre, une revue, on ne sait pas trop comment dire. C'est ce qu'on appelle aussi un MOOC. Hein.
Ouais, c'est un ovni, en fait.
C'est un bel ovni.
C'est un livre original avec du contenu inédit, avec des œuvres originales, des illustrations. Il y a de la BD dedans avec un auteur comme Enzo. Il y a des portfolios. On suit, par exemple, un éleveur dans le Puy-de-Dôme sur 16 ans. Alors, c'est pas moi qui l'ai initié, ce portfolio, mais on voit pendant 16 ans la difficulté et la beauté d'être éleveur.
On va en parler tout à l'heure. Vous l'avez suivi pendant 16 ans. C'est magnifique. Il y a des recettes. Également.
C'est un livre, ouais.
Il y a des séries de portraits de femmes et d'hommes qui font évoluer le monde paysan. Il y a des producteurs, des éleveurs, des maraîchers, des artisans, des chefs, des restaurateurs. C'est une vraie balade, hein, de la fourche à la fourchette. C'est un témoignage pour mieux connaître les paysans d'aujourd'hui ?
Oui, pour relier vraiment le champ à la table. Vous le voyez sur la couverture, le champ est la table avec tous les bons vivants qu'il y a autour.
Bah c'est nous, voilà, ça nous parle. Du bio à l'agriculture conventionnelle, vous montrez le monde paysan tel qu'il existe, avec des modèles agricoles qu'on veut souvent opposer.
Oui, mais non, mais en fait, il ne faut pas opposer les modèles agricoles, tout coexiste. Et heureusement, en fait, on a besoin du bio, on a besoin des circuits courts, on a besoin aussi de l'agriculture qu'on dit en France industrielle. Mais il ne faut pas oublier qu'elle reste familiale en France, qu'on a des fermes avec des familles dessus. On est loin de l'Allemagne ou des Pays-Bas. Et ces beaux paysages qui font qu'on est le premier pays touristique du monde, c'est qu'il y a des façonneurs de paysages que sont les paysans.
Et oui, Marc Dufumier, qui est un ingénieur agronome, dit souvent qu'il faudrait rétribuer les paysans pour le bien qu'ils font à notre environnement et à cette diversité des paysages et à l'entretien des paysages.
Je vous parlais du lien entre les Français et leurs paysans. C'est un lien un peu schizophrène quand même. C'est d'un côté, on les adore, on trouve ça fantastique d'avoir ces paysans, ces fermes. Comme vous le disiez, ils façonnent notre paysage et ils sont indispensables. Et puis d'un autre côté, on a l'impression que c'est des criminels, des pollueurs. Moi, j'ai plein d'anecdotes aujourd'hui, notamment de vignerons qui sont en bio, qui sortent le tracteur pour aller traiter en bio et qui se font caillasser la cabine par des gens qui pensent qu'ils sont en train de les empoisonner. On est schizophrène.
Et puis même qu'ils soient en bio ou pas, à un moment donné, on ne doit pas agresser des agriculteurs. En fait, au-delà de l'agribashing, c'est ça aussi. C'est des agriculteurs qui se font vraiment agresser de plus en plus ou taguer leurs fermes par des slogans vraiment nazis.
Vous en parlez dans le livre.
Vous imaginez le ressentiment qu'il peut y avoir. Donc, il y a des solutions, communiquer, expliquer, toujours, encore. Et c'est ce que il y a de beaux portraits dans le livre d'agriculteurs et d'agricultrices qui racontent tout ça.
Ophélie.
On aime les cartes postales. Hein. C'est vrai qu'on aime imaginer la ferme à l'ancienne en polyculture. Et puis, quand les produits sont valorisés, on est extrêmement chauvin. Je reprends le vin, personne ne connaît les vins italiens qui sont pourtant merveilleux. Non, on est fiers de nos vins français. Mais dès que ce sont des produits qui ne sont pas valorisables, comme les carottes, enfin, où on ne peut pas monter les prix ou les mettre en avant sur un podium, alors on devient très dur parce que tout d'un coup, ça casse l'image de carte postale. Tout d'un coup, on n'a plus cette image-là. On n'imagine pas que derrière, il y a une économie, il y a des gens qui ont du mal à en vivre.
Et vous avez raison, on oublie parfois qu'il faut acheter les choses au juste prix, les ingrédients, les produits de saison, au juste prix. Ça nous intéresse, hein, amis auditeurs, vous qui nous écoutez, là, quel rapport entretenez-vous avec nos agriculteurs ? Qu'attendez-vous d'eux ? Êtes-vous prêt à changer vos habitudes pour acheter plus souvent à la ferme ? Réagissez au 3921 et sur les réseaux sociaux aussi, hashtag Europe 1. On parlait dans ce livre Cultivons-nous, Édouard Bergeon, d'un très beau portrait de Mathieu, qui est éleveur de charolaise. Et c'est un récit en photo sur 16 ans. Et il s'en est passé des choses dans sa vie en 16 ans.
On voit sa vie évoluer, on voit la famille s'agrandir, on voit sa transformation. Il va vers le bio, justement. On voit aussi la sécheresse, on voit la neige, on le voit en train de planter une haie, on le voit avec ses amis, on voit qu'il y a de la solidarité, mais on voit aussi beaucoup de solitude. On voit son corps qui change, qui maigrit comme l'herbe disparaît avec la sécheresse. On le voit vieillir plus vite que...
7 jours sur 7, il travaille.
7 jours sur 7, et on voit aussi la beauté de ses paysages et sa passion. Et il fait vivre la ruralité aussi. Il est élu au conseil municipal. Et ce récit en 30 photos, il y en a beaucoup plus dans le travail de Pablo Chinéard, résume... cette série résume à elle seule ce qu'est Cultivons-nous, le livre, et le pourquoi on a besoin de nos paysans.
On est au salon du Made in France. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, Édouard Bergeon, le Made in France ?
Ça devrait être, on devrait tous manger, en fait, français. Quand on parle de local ou de circuit court, déjà, pour moi, c'est français.
Vous connaissez bien le monde paysan. Comment il va, le monde paysan, avec le regard des consommateurs, comme le disait Olivier, qui est parfois schizophrène ?
Mais la pandémie, cet événement incroyable, inédit qu'on a tous vécu, les a replacés quand même au centre du jeu, avec leur rôle nourrisseur.
Mais on les a un peu oubliés. Hein.
Oui, alors, vous le savez, même les agriculteurs me le disent, il y a eu cette... Pendant le confinement, on était tous à table et on a tous voulu savoir d'où les produits venaient. Et donc les circuits courts, les marchés, alors là, ça a augmenté. On a pu se dire que c'était une mode. Mais quand même, il en est resté quelque chose. Alors oui, on oublie vite, mais il y a eu ça quand même. Donc j'ai envie de croire que ça évolue.
Alors les cantines scolaires ont un rôle à jouer aussi dans le rapport agriculteur-consommateur. Vous consacrez un dossier hein, dans le livre à ce sujet. 12 millions d'élèves mangent à la cantine tous les jours. Et effectivement, on a envie de se dire que ben voilà, c'est aux cantines aussi de montrer l'exemple et de cuisiner local. Alors on sait qu'avec la loi Egalim, il est question de mettre du bio et du local plus en force dans nos cantines, mais on n'y est pas encore.
Mais non, mais il faut former aussi les cantinières, les cantiniers. En fait, c'est de l'emploi tout ça. Et on se rend compte qu'avec cette enquête très fouillée d'Emmanuel Ducrot sur les cantines scolaires, eh bien, le pouvoir est aux politiques et aux parents. C'est-à-dire qu'on peut faire bouger les choses. On peut manger de saison. On peut faire un labo avec. Enfin, on peut s'entendre pour que nos enfants mangent bien, alors que c'est plutôt l'industrie aujourd'hui qui, dans certains endroits, on les rênes.
Il y a aussi de belles histoires de reconversion dans votre livre. Je pense à Lucie, qui est une ancienne prof de français et qui est à la tête d'un élevage de 15 000 poules pondeuses aujourd'hui.
C'est génial, Lucie. 15 000 poules pondeuses, en vrai, faut pas faire peur aux gens, c'est pas énorme en fait. C'est un bâtiment.
Oui, c'est vrai qu'on peut dire, c'est de l'élevage intensif.
Non, c'est 15 000 poules en plein air et bio.
Mais ça prend pas beaucoup de place, une poule.
Non, et ça prend pas beaucoup de place. Vous savez quoi ? Elle est passée en bio et aujourd'hui, le marché étant saturé, il va falloir qu'elle repasse au conventionnel. Parce que le bio reste quelque chose de cher. Et aujourd'hui, en tout cas dans l'œuf, et bientôt dans la viande et dans le lait, il y a une saturation du marché. Ce n'est pas un argument de vente, en fait.
Et on le voit avec le lait, où le lait bio est acheté au prix du lait... où on a mis du lait bio avec le lait conventionnel. On l'a mélangé ces derniers temps.
Exactement.
Ça veut dire qu'on a raté un petit truc quand même. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à valoriser ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qui compte ? C'est le prix. Les gens achètent un prix et n'achètent plus une qualité ou malheureusement même pas une démarche bio.
Mais c'est la contradiction avec la pandémie encore... plus de précarité. On le voit, il y a 1 million de plus de personnes qui sont sous le seuil de pauvreté. Donc, c'est pas simple non plus. Est-ce qu'on est prêt à mettre, pour ceux qui le peuvent, un minimum d'argent dans notre assiette, en fait ?
Mais pour ceux qui le peuvent, il n'y a pas d'excuse à ne pas le faire.
Non.
Mais je pense que c'est toujours la déconnexion avec l'être humain, en fait, qui joue là-dedans. Quand on sait qu'il y a des humains derrière, ça change tout. Moi, je vois des agriculteurs qui sont heureux de faire leur travail. Et en fait, rien que ça, rien que de voir leur bonheur à faire leur travail, leur épanouissement, bah, ça donne envie de les aider, ça donne envie d'acheter. Et puis quand on voit l'année 2001 qui a ravagé tant de cultures, qui a fait tant de mal aux agriculteurs, qui se relèvent quand même, qui vont avoir une année financièrement très difficile eux aussi. Hein. Il n'y a pas que les Français qui achètent qui souffrent, hein. Il y a ceux qui produisent. Et bien quand on pense à ça et qu'on fait marcher un peu l'empathie, bah, ça aide.
Eh bien, on continue de parler du Made in France à travers le travail de nos paysans. Pour ça, rien de tel que de faire le marché et de passer à table. Vous êtes d'accord ? Eh bien, c'est parti. On y va, à tout de suite.
11h30 sur Europe 1, Laurent Mariotte vous accueille à la table des bons vivants.
Quel lien nous unit agriculteurs et consommateurs ? C'est la question qu'on se pose ce matin en direct du salon du Made in France avec le réalisateur et journaliste Édouard Bergeon qui est venu avec son livre « Cultivons-nous, bien manger avec les paysans d'aujourd'hui ». Donc continuez à réagir au 3921 et hashtag Europe 1 sur les réseaux sociaux. Parmi les réactions, tiens, Édouard Bergeon, c'est intéressant, il y a Annick sur le groupe Facebook des bons vivants qui nous dit « Oui, le Made in France, c'est bien gentil, mais j'y crois pas ». Effectivement, elle a des doutes, il y a une suspicion sur l'origine des produits parce qu'on sait que parfois une charcuterie corse est faite avec un cochon qui vient de Bretagne et on l'assemble en Corse et on dit que c'est du jambon corse, vous voyez.
Il y a un problème de traçabilité, il y a un problème de faire savoir. Moi, je vois avec les copains qui ont monté leur filière de lait Vallée du Lot, Cantavelot par exemple, ou d'autres, la filière Merci. En fait, il y a la photo de la productrice ou du producteur sur le pack de lait. Et en fait, on a souvent interrogé des consommateurs. Ils n'y croyaient pas. Ils ne croyaient pas que c'était l'agriculteur ou l'agricultrice. On croyait qu'on leur faisait, qu'on leur racontait une fausse histoire. Alors que si, il y a un problème de faire savoir, en fait. C'est pour ça que moi, j'ai créé Cultivons-nous la chaîne et maintenant Cultivons-nous le livre pour faire savoir nos savoir-faire. Et de l'innovation et de la passion, il y en a dans l'agriculture.
Ophélie.
Moi, je suis un petit peu gênée, effectivement, par certains commerçants. Je pense notamment aux bouchers. Quand je vais chez les bouchers sur le marché, hein, sur le marché, je vois rarement l'origine de la viande et surtout les conditions d'élevage. Et moi, j'aimerais savoir ça. Et les bouchers considèrent qu'on a à leur faire confiance. Et c'est vrai qu'on leur fait confiance. On leur achète leur viande, elle est bonne. Mais on aimerait quand même avoir quelques informations juste pour être rassuré.
C'est eux de faire ce travail déjà.
Alors, chaque semaine, on commence l'émission en baladant notre micro sur les marchés, justement. Édouard Bergeon, vous prenez le temps d'aller au marché ?
Ah oui, j'y vais toutes les semaines. Mais moi, je vais au supermarché, je vais à la ferme, je vais au supermarché.
Vous en picorez, fait,
je
voilà.
Suis comme tous les Français. Il ne faut pas oublier que 80% des Français font leurs courses au supermarché.
Exactement.
Et qu'il faut faire bouger les supermarchés pour qu'ils aillent, pour qu'ils fassent mieux. Ils font encore plein, il y a encore plein de problèmes. Il y a un problème de rémunération et de méthode pour certains trucs. Mais ils font des efforts, ils n'ont pas le choix. Avec Cultivons-nous, on va justement porter notre caméra ou notre stylo pour aller voir justement ce qu'ils font de bien et de pas bien.
Alors vous le savez, le camarade Jean-Luc Petit-Renaud fait partie de la bande, il a fait son enquête. Les Français, tiens, vont-ils encore au marché ? Eh bien en ce moment, le camarade Jean-Luc en visite une dizaine par mois, c'est donc une vraie enquête de terrain. Alors, camarade Jean-Luc Petit-Renaud, tous au marché ?
Eh bien oui, écoutez, j'ai mené mon enquête, j'ai mis ma casquette de Sherlock Holmes. Et c'est un sacré scoop, il y a de plus en plus d'amateurs sur les marchés, on les croise, il y a de plus en plus de monde. Je trouve d'abord que le marché participe à notre culture générale, mais au même titre que la littérature et autres. On vient prendre la mesure des saisons. On croise ceux qui exposent, les producteurs, ceux qui sont là, ceux qui proposent. Parce qu'on n'a pas besoin forcément d'aller jusqu'à la ferme chercher son fromage de chèvre. On peut le voir comme ça, devant soi, par ces récoltants qui arrivent les mains pleines de cadeaux. C'est l'arche de Noël, marché. Souvent, ils ont presque déraciné la salade juste avant. Tiens, dernièrement, j'étais sur le marché de Rueil-Malmaison. J'ai croisé un Philippe. Philippe, il est volailler. Et il est volailler de père en fils. Jusqu'à la dernière génération, ils ont élevé eux-mêmes leurs volailles. C'est-à-dire qu'il y avait les petites cocottes qui arrivaient directement sur le marché et on livre ça directement sans intermédiaire. C'est ça le marché. On est loin de l'idée de remplir son caddie à roulettes et croyez-moi, j'aime mon marché parce que ça a un sens le marché. Ça a
un sens. Comment ? Bien sûr, Jean-Luc Petit-Renaud, ça a un sens le marché. C'est pas vous qui direz le contraire, Olivier Pouls.
Oui, mais attention, il faut se garder d'une forme d'angélisme vis-à-vis du marché et considérer que c'est absolument fantastique. Attention, certains marchés sont en train de devenir aujourd'hui des supermarchés à ciel ouvert. C'est-à-dire que vous ne trouvez pas forcément le petit producteur qui vient avec sa salade ou l'éleveur qui vient vendre les produits de sa ferme, mais vous trouvez aussi de plus en plus de grosses institutions. Et moi, sur beaucoup de marchés, je vois des produits complètement désaisonnalisés, des trucs qui viennent de l'autre bout du monde.
Oui, il y a les grossistes, c'est ce qu'on dit souvent ici.
Cher.
Allons vers les producteurs locaux. Édouard Bergeon, les cuisiniers sont aussi le trait d'union entre les agriculteurs et les consommateurs. C'est pour ça qu'il y a de nombreux exemples dans votre livre, avec des recettes, avec des cuisiniers engagés.
Bien sûr, il fallait pour moi relier le champ à l'assiette. Donc forcément, il y a des agriculteurs qui font bouger leur méthode et puis leur manière de produire. Et les cuisiniers, ça passe par eux, en fait. Quand vous faites un reportage sur un grand chef, il vous parle de quoi ? Il vous parle de son produit et de qui produit, justement, ce fameux produit d'exception. Donc, il fallait absolument montrer les belles initiatives parce qu'il y en a.
Il y a un reportage photo qui est bien senti, qui est bien vu, c'est le cas de le dire, quand les professionnels se mettent à table.
Les professionnels de la table à table.
Exactement.
Ça, les c'est bouchers bien. De Rungis, le boucher qu'on connaît tous les deux, Olivier, qui est la meilleure viande de veau de l'Île-de-France.
Exactement, ici, Moulineaux. On le salue d'ailleurs.
Pierre, qui est amoureux de la viande depuis qu'il a 4 ans. Il était dans les pattes de son père et il est passionné, il sélectionne ses éleveurs. Et puis, il y a un cahier pratique où, à la fin du livre, c'était important, l'un de mes chefs, Daniel Morgan, le chef d'un de mes restaurants, a imaginé 11 recettes avec 11 produits de saison. On raconte des histoires autour de ces produits. Il y a même un QR code où on les retrouve en vidéo.
Oui, il y a un cahier de recettes à la fin du MOOC. C'est par saison, évidemment. Il y a des conserves de courge, tiens, en saumure, avec des pommes, de l'ail et du gingembre qu'on passe à la centrifugeuse. C'est pas mal, ça, votre saumure. Pommes, ail, gingembre, pour conserver des courges en bocaux.
Faire bon, faire simple. Et en fait, c'est ça, en fait. Cultivons-nous. C'est plein d'infos. On vient piocher, on vient picorer, comme vous dites. Et tout ça pour mieux manger avec les paysans.
Et vous diriez quoi pour conclure ? Que les agriculteurs et les consommateurs doivent encore apprendre à se connaître ?
Oui, absolument. Il faut vraiment se parler, en fait. On connaît mieux son ennemi que quand on l'invite à déjeuner à table. C'est Edgar Faure qui disait ça. Et je pense que C'est la clé, en fait.
Vous pensez que les consommateurs pensent que les agriculteurs sont leurs ennemis? Non, quand même pas, on n'en est pas là.
Ben, certains, oui.
C'est vrai.
On parlait d'agribashing tout à l'heure ou d'actes de malveillance. C'est vraiment, le ressentiment dans les campagnes est vraiment fort. Certains, ce qui est important, c'est de savoir d'où on parle. Vous parlez de ce que vous connaissez, de l'assiette. Certains parlent du béton ou d'ici. Et il faut juste revenir dans les campagnes et savoir qu'il y a des hommes et des femmes qui sont derrière,
oui,
ces produits.
Parce que je crois que beaucoup de Français, notamment urbains, ont oublié ou ne savent vraiment plus ce que c'est que le métier d'agriculteur. Je voudrais quand même rappeler que c'est les gens qui ne prennent pratiquement jamais de congés, qui travaillent 60 ou 70 heures par semaine, samedi et dimanche compris, et qui vouent leur vie à leur exploitation.
C'est l'éducation la clé.
Eh bien, profitons de ce grand week-end pour se promener à la campagne et baladons-nous, cultivons-nous. C'est votre livre, Bien manger avec les paysans d'aujourd'hui aux éditions des Arènes. Merci Édouard Bergeon.
Merci. Merci.